conservée, très vivace, même au XIIe siècle. Ce conte du XIIe siècle. Et alors là, je me demande s'il faut donner l'explication que tu viens de donner, Michael, à savoir que c'est pour défendre une culture menacée, etc. Il y a peut-être aussi simplement la persistance de quelque chose qui a été extrêmement important et qui peut-être est en train de devenir moins important. Et donc, ce serait une sorte de reprise nostalgique de quelque chose qui a été important. Pas nécessairement dans la perspective d'une défense. Ceci est une première idée. Une autre idée que je me pose, c'est effectivement la classe sociale où naissent ces contes. Bon, personnellement, j'aimerais que Michael, qui a mieux que moi fréquenté ces mille et une nuits, se prononce là-dessus. Je n'arrive pas à cerner exactement, surtout à travers un conte comme celui-ci, la classe sociale où ces contes sont nés. Parce que c'est une culture plus que catéchistique, parce que voilà une femme qui parle de la philosophie, par exemple, qui au XIIe siècle, la philosophie avait déjà reçu un certain nombre de coups. Et par conséquent, la gamme de culture que nous présente cette jeune servante, si encore une fois c'est au XIIe siècle que ce conte est né, est étonnante d'ouverture par rapport à ce qui déjà au XIIe siècle commence à se passer pour une certaine science. Il y a une autre idée que peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur justement la naissance de ces contes des mille et une nuits d'une façon générale, qui sont un produit si typique et si vrai de ces sociétés. Et alors je poserai la question, comment expliquer d'un point de vue toujours sociogénétique la cessation de la production de ces contes? Car le problème de la naissance de ces contes, de la production de ces contes par ces sociétés est très intéressant, bien sûr, mais le problème de la disparition de cette production est aussi intéressant du point de vue socioculturel et historique. Car si nous pensons par exemple à ce qui se passe dans la production littéraire au XIXe siècle et même au XXe siècle dans ces sociétés musulmanes, c'est tout à fait différent de ce que nous trouvons dans ces mille et une nuits au point de vue de l'authenticité de la production et de la verve, de la sève que nous nommons populaire. Est-ce que nous avons raison, c'est à voir. Alors que si nous considérons les romans, la nouvelle, etc., que nous connaissons maintenant, c'est tout autre chose.
Peut-être avant que Maxime Rodinson intervienne, André Michel répond.
Vous voulez ? Oui, je répondais sur deux ou trois points soulevés par Arkoun. Qu'il s'agisse d'une reprise nostalgique ou d'une perpétuation, moi je veux bien. Je constate simplement que entre l'époque où se fait le conte de Tawaddoud et le code qu'elle propose à ses auditeurs, il y a tout de même une convergence assez étonnante. Or, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu parles de philosophie. Elle n'est pas du tout philosophe.
Non, je ne dis pas qu'elle est philosophe.
Non, mais tu as posé le problème de la philosophie. Non,
elle lui accorde une place. Ça n'est pas un catéchisme au sens religieux, c'est ce que je vous dis. Elle ne se contente pas de parler des sciences religieuses.
Tout dépend de ce qu'on appelle...
Elle parle de la fameuse, tu sais qu'on a bien distingué, les sciences dites religieuses et les sciences rationnelles.
Il n'empêche...
L'arliya ou l'arliya.
Oui.
Et là, elle parle des deux. Donc,
oui.
Excuse-moi,
elle les évoque,
oui,
mais elle n'en parle pas.
Oui,
toute la différence est là.
Oui.
En fait, non, son savoir, je le constate, son savoir est un savoir profondément musulman, organisé autour du credo. Et, alors, pour en venir à ce que tu dis, la classe sociale, je n'en sais rien. Il y a des comptes où on peut le savoir, ne serait-ce que par la monnaie, par exemple. Il y a des comptes à dirhem. Il y a des comptes à dinars. Oui. Alors là, on peut se dire que...
C'est-à-dire à monnaie d'or ou à monnaie d'argent.
Oui, et il y a aussi des comptes, comme un de ceux dont nous ne parlerons pas, à petite monnaie de cuivre, où on ne va jamais au-dessus de la monnaie de cuivre. Alors là, on sait au moins que, sinon comme contexte de production, au moins comme société décrite, là, on sait dans quelle couche sociale on est. Pour des gens comme Tawaddoud, moi je m'en tiens à ce que j'appelle ce musulman, honnête homme, moyennement cultivé, qui rassemble un savoir, désormais, je crois, codifié et qui ne s'étend plus, contrairement à ce qu'il faisait encore au Xe siècle. Mais il reste, pour conclure là-dessus, parce qu'il nous faut aller vite, il reste tout de même que l'éternel problème, c'est de savoir ce qui là-dedans appartient au conte populaire et à l'écriture, car tous ces contes sont écrits. Et chaque fois, l'intervention d'un scribe pose en effet le problème. Quant à la cessation de production dont tu parlais, il y a en ce moment une personne qui s'occupe du conte dans la région de Damas, où elle relève encore des traits des mille et une nuits, qui sont poursuivis jusque-là. Et il y a, j'espère en voie d'édition, pour un autre personnage, Baybars, le calife Mamelouk, une très grande encore production en plein 19e de conteurs adossés, si j'ose dire, à des cahiers d'écoliers qui écrivent leurs contes sur les feuilles, plus sur des cahiers d'écoliers. Je ne crois pas que ce soit tout à fait mort.
Maxime Brodinson.
Je veux dire quelques mots sur des points différents. Là. Il y a femme et femme, n'est-ce pas? Et je crois qu'effectivement, il ne faut pas faire d'anachronisme. La société musulmane a évolué énormément. Il ne faut pas se baser sur ce qui se passait à l'époque coloniale. À l'époque coloniale, effectivement, on peut considérer que la femme, dans une certaine mesure, était la conservatrice de la science.
La longue veilleuse de la nuit coloniale.
Oui.
Formule célèbre.
Ça commence en 1850, mettons 1830, ce qui est quand même une époque très tardive pour nous. Avant, là, nous avons ce type de la djaria, etc. Bon, il n'y a pas que le livre de Jahez, il y a toute la littérature pendant très longtemps, je ne sais pas à quelle époque ça cesse, mais enfin, nous montre la femme qui est au fond le successeur de l'étaïr de l'étaïr grec, c'est la même chose.
Je pensais, pas l'étaïr grec est dans une autre civilisation, un peu la geisha japonaise.
C'est ça, alors elle a ce rôle, elle est instruite, elle distrait les hommes, etc., à l'opposé de la femme qui reste à la maison et qui est une autre catégorie de femme. Alors je ne sais même pas si c'est une reprise, je crois que c'est une continuation, ça a dû durer très longtemps, je ne sais pas à quel moment ça a disparu. De même pour la philosophie, il y a eu condamnation effectivement de l'activité philosophique, de philosophie de haut vol, celle qui pouvait concurrencer la religion, mais il y a eu une subsistance d'intérêt, disons, et puis d'acceptation de quelques idées philosophiques élémentaires qui sont entrées dans le fond commun, qui sont en accord, enfin qu'on a accordé de façon assez incohérente, comme toujours dans les idéologies, on a plus ou moins accordé avec le Coran, c'est resté comme, c'est pas extraordinaire, je crois. Et alors, pour la cessation de production, en effet, il ne faut pas s'illusionner sur les écrits, sur l'écrit. La production de contes, elle a continué tout le temps, et en partie sur la ligne des mille et une nuits. Elle a été moins... Là, nous avons affaire à un recueil qui a été mis par écrit, et d'ailleurs, c'est enrichi jusqu'à une époque récente, puisque le tabac est du XVIIe siècle, il y en a question dans certains contes, le tabac et le café sont du XVIIe siècle. Par conséquent, ce qu'il y a, c'est que là, nous avons un recueil qui a eu une grande célébrité, qui a été élevé au niveau littéraire, encore que mal considéré par d'autres, et puis il y a eu toute cette production quand même aussi mise par écrit, on parlait André Michel, Probaybars, mais enfin il y a Sirat, les aventures de Seyf Ibn Tijan, etc.
Oui, alors moi, si je peux en dire un mot, qui est un petit peu un mot d'un homme extérieur à la civilisation, je suis frappé par deux choses. D'une part, en ce qui concerne le contenu du conte, ce que André Michel, justement, je crois, enfin, montre, prouve, tout au cours de son livre, c'est précisément l'importance de ce contenu plus ou moins latent, qui n'affleure pas toujours, le côté didactique, scientifique, de ces contes et les débats que l'on sent affleurer, en particulier le rôle de la femme que l'on retrouvera dans d'autres contes. Et puis alors, l'occidentaliste ne peut s'empêcher de voir que, dans un contexte différent, des phénomènes semblables et des problèmes semblables, et en particulier pour l'époque médiévale, apparaissent. Ce que disait Mohamed Harkoun, à quel public c'est destiné, les fabliaux, les exemplats dans l'Occident médiéval, et le problème culture populaire, culture savante, ce que représente en particulier le passage à l'écrit, Et je pense que nous avons là, outre l'intérêt interne, l'intérêt de possibilités de comparatisme dont l'historien sera, je crois, toujours justement friand. André Michel.
Je voudrais terminer en revenant à la femme. Puisque, bon, on peut en effet estimer que ce savoir se distribue inégalement selon les sexes, selon les ethnies, selon les conditions sociales. Tout ce qu'ont dit Harcoun et Rodinson sur la femme est tout à fait juste, sur bon, cette femme esclave, très érudite, très lettrée, par laquelle le savoir circule, mais, ça ne nous est pas dit expressément dans ce conte-ci, mais à la fin, lorsqu'elle s'apprête à triompher par la musique, le conteur nous dit « Elle prit le luth dans son giron, inclina son sein sur lui et se mit à l'envelopper comme une mère le ferait de son enfant. » Ce qui suggère le mariage du jeune homme et de son esclave, et ce qui tout de même dit très joliment et de façon nuancée que le véritable statut de la femme, c'est évidemment le mariage, le statut de femme libre et le mariage. Mais c'est dit, encore une fois, d'une façon telle que, à l'inverse, les droits de la femme esclave sont aussi ménagés. Le texte se situe à l'articulation de deux conceptions de la femme qui me paraissaient intéressantes de montrer.
André Michel, nous passons à notre conte, à notre personnage. Alors nous allons du côté des hommes et un personnage très différent de Tawad Doudla. Nous avons un sympathique coquin, Ali Hazibak.
Oui. Nous en avons plusieurs et nous avons surtout plusieurs bandes et nous avons surtout à la tête une remarquable coquine, puisque le comte peut s'appeler à volonté Rali Zibak, c'est-à-dire Rali Vivargent, enfin qui échappe à la prise, sur lequel on ne peut pas mettre la main, ou Dali la rusée. Bien, alors, qu'est-ce que c'est que ce comte? C'est ce que l'on appelle traditionnellement un comte de ruse, il relève de cette catégorie. C'est un conte qui nous montre comment d'anciens coquins font main basse sur la ville, dirais-je, pour me référer à des titres récents. Et comment ces coquins se connaissent de l'Irak à l'Égypte, s'appellent, se recrutent. Bien. Alors entre eux, entre ces bandes rivales, il y a une espèce de guéguerre, dirais-je, de guéguerre à grands coups de mauvaises plaisanteries. Bref, à la fin, là aussi, tout se termine bien. La jeune fille d'une bande rivale épouse le chef d'une autre bande, et tout ce monde vit heureux à Bagdad en étant chargé de la police. Ce qui est quand même étonnant. Alors, là aussi, on se dit, enfin, pourquoi un conteur propose-t-il à un auditoire, et dans ce cas, quel auditoire, une histoire aussi invraisemblable? Comment des voleurs peuvent-ils devenir chefs de la police? Ça s'est vu. Alors, je vois déjà. Bon, on peut penser à Vidocq, etc. Bien. Mais je crois que là, il faut prendre en considération un phénomène de l'histoire dont nous parlions tout à l'heure. Harcoun en parlait, et Rodinson y a insisté dans ses livres. C'est le phénomène de la ville. Et là, je crois que très précisément, il faut nous référer aux travaux de Claude Cahen, qui a très bien montré comment, en Orient, pas en Égypte, aux dernières nouvelles, dirais-je, on sait à peu près qu'il existait des bandes organisées, mais sans relation avec le pouvoir, sinon que des relations conflictuelles. Dans le Proche-Orient du Moyen-Âge, au contraire, il existe des mouvements de fait, au départ informels, comme nous le dirions aujourd'hui, qui ensuite regroupent des gens, et ces gens, un jour ou l'autre, obtiennent du pouvoir le droit de gérer les affaires de ce que nous appellerions de la police municipale. Et au-delà, mais ça ne nous concerne pas, développent un certain patriotisme local. Ça, c'est autre chose. Alors, revenons à notre conte et demandons-nous à quoi il peut servir. D'abord, il y a là-dedans, on en lira un texte tout à l'heure, une série d'indications, mais d'indications qui ne vont pas jusqu'au bout, je m'explique. Il y a tout un codage dans ce conte, un codage d'attitude. On connaît par exemple la résidence du grand chef de bande, mais on l'indique d'une façon détournée. Le petit garçon joue au football avec des pierres, il lance une pierre contre le portail et il file immédiatement. On sait que ces bandes sont organisées, nous dirions, un peu comme une franc-maçonnerie, entre guillemets, ne confondons pas tout, mais qu'il y a des uniformes, qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a des appellations. Et tout cela compose, alors, s'adresse, tout cela est dit au public, mais n'est dit qu'à moitié. On ne peut pas trahir les secrets d'un ordre. Et tout cela aussi s'adresse à un public à qui on montre que le merveilleux, ça n'est pas le merveilleux d'une histoire, mais que le merveilleux, c'est que l'histoire puisse devenir réalité. Il y a par exemple une phrase qui en dit long, un petit vaurien qui s'appelle, je crois dont le nom veut dire quelque chose comme Ahmad la petite roulure, bon, dont on dit ce garçon ira très loin. On le dit dans le conte, mais il n'est pas exclu que le conteur, en proposant ce conte à son auditoire, leur dise d'une façon dévoilée, si vous êtes intelligent, si vous savez faire des tours et surtout si vous savez prendre le train en marche, autrement dit, vous intégrer à une bande qui est assez puissante pour être un jour reconnue et devenir un pouvoir officiel, alors à ce moment-là, le merveilleux peut être aussi votre merveilleux à vous.
Mohamed Harkoun.
Voilà encore un conte extrêmement intéressant et que l'on est tenté de lire en historien pur, tellement la référence à l'histoire sociale est grande. Ce qui est intéressant là, c'est quand même essayer de différencier le regard que l'historien, celui qui écrit l'historiographie au même moment, quel que soit le moment considéré du conte, n'est-ce pas, le regard qu'il porte sur la société, la façon dont il rend compte des événements et les événements qu'il retient, et la façon dont le regard qui ici est porté. Alors, on voit là que on est vraiment à un lieu de la société complètement différent de celui de ce qu'on peut appeler l'intelligentsia, historien ou théologien ou fuqaha, c'est-à-dire juriste théologien ou autre. Alors, ce regard est très intéressant.
Excuse-moi, je crois qu'il faudrait préciser pour les auditeurs, ce que tu veux dire, c'est que dans la littérature des érudits, ces gens-là sont désignés par les bandits,
oui,
entre guillemets.
Exactement, hein. Exactement. Voilà. Exactement. Le regard est complètement différent. Et donc là, nous avons...
Ici, c'est les malins.
Ici, c'est les malins, c'est
les dégourdis.
Dans un cas, les bandits, dans l'autre, les dégourdis.
Et par regard sur la société, je veux désigner le lieu d'où ce regard est possible, n'est-ce pas? Le lieu de la société d'où ce regard est possible, et donc j'essaye de cerner le lieu de naissance de ces contes et la manière par conséquent dont ces contes peuvent à la fois se raccrocher à ce que disent ces intellectuels sur la même société et la façon dont une autre classe sociale un peu plus large que cette intelligentsia mais néanmoins pas aussi large que ce que représente la catégorie sociale la plus large, celle qui n'écrit même pas ces contes-là et qui peut-être ne comprend même pas ces contes-là, car après tout, ces contes-là, même au point de vue linguistique, sont dits dans une langue qui, pour nous, classicisant, est très simple, mais qui n'est quand même pas la langue de tout le monde, vraiment. C'est une langue qui reste correcte, littéraire. Classique, littéraire, etc. Donc, je crois qu'il y a là, j'aimerais entendre Rodinson et Mickaël là-dessus, est-ce qu'on ne peut pas caractériser, parler d'une sorte de classe moyenne dans laquelle seraient nés ces contes-là, qui s'adresseraient également à cette même classe moyenne, qu'il faudrait différencier de ce que les historiens appellent l'Aura, l'Ama, Dama, qui est vraiment entre guillemets, la lie du peuple, le peuple désordonné, celui des fauteurs de désordre encore plus grand, tandis qu'ici, ces soi-disant bandits, ce sont en réalité des organisateurs de la société. Ils peuvent devenir des personnages importants. J'essaye simplement, en disant ceci, de cerner encore une fois le lieu social d'apparition de ces contes et la couche sociale dans laquelle ces contes fonctionnent.
Maxime Rodinson.
Évidemment, c'est un tas de problèmes extrêmement difficiles parce que je crois qu'il n'y avait pas de séparation tranchée. Enfin, on passait par gradation insensible de les très basses classes ou autres. Mais quand même, je crois que ces contes avaient une audience populaire malgré tout et sont compréhensibles. Dans l'ensemble, il y a des termes populaires d'ailleurs qui s'y glissent pas mal. Et puis le conteur, il faut se rendre compte de ce que c'est que le conteur en Orient. Ça l'était encore il y a 20 ans ou 30 ans, moi j'en ai vu en exercice, et vous aussi certainement. Le maître d'art, celui qui raconte les histoires sur la place publique.
C'est ça, la place publique.
Autour, moi j'ai vu des gens raconter des histoires du style Mille et une nuits en marchant de long en large dans un café en plein air, par exemple, je me rappelle la Saïda, qui malheureusement est bien abîmée aujourd'hui. Et dans ce café, le type marchait de long en large avec une canne, en faisant des gestes, en racontant ses histoires. Et après, à la fin, disait la suite au prochain numéro, à demain. Et on attendait ça avec vraiment passion. Et dans le public, bon, il y avait des gens de classe moyenne, comme vous dites, assis et prenant leur café, mais tout le monde s'agglomérait autour, quitte à ne pas prendre même le café. Alors, dans tout cela, dans cette société du Moyen-Âge, il y a, et surtout probablement, effectivement, en Irak, à Bagdad, en Syrie, il y a des rassemblements. Nous voyons se faire des rassemblements de gens pour des causes bonnes ou mauvaises, et des rassemblements qui, souvent, enfin, des groupements qui sont souvent utilisés dans le jeu politique, la lutte pour le pouvoir, comme nous l'avons vu. Il y a des manifestations de masse, il y a toute une vie. Et il s'agit pour des choses politiques. On réclame la guerre contre les Byzantins, par exemple, on proteste contre ceci ou cela. Il y a des manifestations de type moderne à Bagdad. Et il y a des tas de choses de ce genre. Pour en revenir à nos chers ismaïliens, je me souviens que dans cette encyclopédie théorique très forte, très abstruse même, souvent, des Ikhwan al-Safa, des frères de la pureté, qui sont des théoriciens, des intellectuels de haut vol ismaéliens, à un moment donné, il est dit, et que ferions-nous les éboueurs se mettaient en grève pendant 10 jours, Bagdad ne pourrait plus subsister. Voilà un petit indice. Il y a une vie très, très moderne, dans un sens.
André Michel.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Maxime Rodinson, et ça me permet justement, ce qu'il vient de dire me permet de répondre à Harkoun. L'interrogation d'Harkoun et la mienne sont la même, à savoir que perpétuellement, en effet, nous devons nous demander où ce conte est né, quand il est né et à qui il s'adresse. Alors là, je crois vraiment que pour Ali Zibak ou Dalila, peu importe comment on l'appelle, je crois vraiment que là, nous sommes sur un terrain sûr. Le conte naît dans et s'adresse au petit peuple des villes. Il n'y a pas de doute. Même pas, je dirais à la limite, même pas le peuple des commerçants. Les commerçants sont là comme toile de fond, des boutiques où on passe, mais les gens qui interviennent sont véritablement des, je ne dirais pas des voyous, parce que déjà, je dirais des vauriens, et des vauriens éminemment récupérables. Et alors, je conclue là-dessus, un des chefs de police, qui d'ailleurs n'a pas affaire avec nos bandes, mais il est signalé un peu de là, en fait, de façon marginale, il s'appelle Monsieur Peste des Chemins. Alors, visiblement, lui, c'était un personnage pire, celui-là, c'était un coupeur de route. Alors, vraiment, le droit musulman, pour le droit musulman, le coupeur de route, c'est vraiment le bandit numéro un, l'ennemi public numéro un. Eh bien, celui-là, cette Peste des Chemins, est devenu lui aussi chef de police. Il a été récupéré. Et ça n'est pas, je crois seulement, je conclue là-dessus, une bonne histoire. C'est l'histoire de quelque chose qui s'est effectivement passé, oui. Grâce soit rendue à Claude Cahen, encore une fois, qui l'a vraiment très très bien mis en lumière.
Moi, à nouveau, ça me rappelle quelque chose. Dans une société très différente, je n'ai pas d'exemple de vaurien devenu sergent dans l'Occident médiéval, mais c'est ce que Bakhtine, n'est-ce pas, nous a révélé sur la culture de la place publique dans l'Occident de la fin du Moyen-Âge et des débuts de la Renaissance, dans son étude qui, à partir de Rabelais, remonte justement vers ces derniers siècles du Moyen-Âge. Alors, maintenant, je crois que c'est le moment de proposer à nos auditeurs cet extrait très juteux de ce conte où nous voyons ce petit peuple urbain et ses filous.
Dès qu'il fut entré dans la ville, il se mit à chercher la demeure de son ami et s'en informa à plusieurs personnes qui ne purent ou ne voulurent la lui indiquer. Et il arriva de la sorte sur une place nommée Al-Nafs, où il vit des jeunes garçons qui jouaient entre eux sous la direction d'un autre, plus petit que tous, et qu'ils appelaient Mahmoud Lavorton. Et c'était justement ce petit Mahmoud Lavorton-là qui était le fils de la sœur de Zainab, celle-là qui était mariée. Et Ali Vif-Argent pensa en lui-même, « Ya Ali, les nouvelles des gens se prennent chez leurs enfants. » Et aussitôt, pour attirer à lui les enfants, il se dirigea vers la boutique d'un marchand de douceur et y acheta un gros morceau de halva à l'huile de sésame et au sucre. Puis il s'approcha des petits joueurs et leur cria, « Qui de vous veut du halva encore chaud ?» mais Mahmoud Lavorton empêcha les enfants de s'avancer et vint tout seul devant Ali et lui dit « Donne le halva ». Alors Ali lui donna le morceau et en même temps lui glissa dans la main une pièce d'argent. Mais lorsque Lavorton vit l'argent, il crut que l'homme le lui donnait pour l'entreprendre et le séduire. Et il lui cria « Va-t'en, je ne me vends pas, je ne fais pas de turpitude. Interroge les autres sur moi et ils te répondront. » Ali vit Fargent, qui ne pensait point à ce moment-là à des turpitudes ou autre chose semblable, dit au petit crapuleux « Mon enfant, ce que je te donne là est le prix d'un renseignement que je veux te demander. Et je te paie de la sorte, parce que les braves paient toujours les services qu'ils demandent à d'autres braves. Peux-tu seulement me dire où se trouve la demeure du Mokadem Ahmad la Teigne ?» Lavorton répondit « Oh, si ce n'est que cela que tu me demandes, la chose est facile. Je vais marcher devant toi, et quand j'arriverai devant la maison d'Ahmad la Teigne, j'attraperai un caillou avec mes orteils nus, et je le lancerai contre la porte. De cette façon, personne ne me verra te donner l'indication, et tu sauras de la sorte quelle est la demeure d'Ahmad la Teigne. » Et il se mit effectivement à courir devant Vif-Argent. Et au bout d'un certain temps, il ramassa un caillou avec ses orteils nus, et le lança, sans bouger, contre la porte d'une maison. Et Vif-Argent, émerveillé de la prudence, de la précocité, de l'adresse, de la méfiance, de la malice et de la finesse du garnement, s'écria « Inch'Allah, ya Mahmoud, le jour où moi aussi je serai nommé capitaine de la garde ou chef de police, je te choisirai le premier pour être du nombre de mes braves. » Puis Ali frappa à la porte d'Ahmad la Teigne.
Nous allons parler de deux contes et de deux personnages que vous aimez, et je crois que vous avez raison, opposer l'un à l'autre. L'un est bien connu. Je pense qu'aucun de nos auditeurs n'a pas entendu parler de Sinbad le marin. L'autre, je pense que ça va être pour la plupart d'entre eux une révélation, c'est Abou Muhammad le paresseux. Alors, commençons par Sinbad. En quoi vous a-t-il intéressé, Sinbad ?
Eh bien, je crois d'abord que Sinbad est le conte où s'exprime le mieux la magie de certains lieux, de certains temps et de certains personnages mythiques. Les lieux, c'est Bagdad. Enfin, disons, cela part de Bagdad, Bagdad et Bassora. Disons plus précisément l'Irak. L'Irak du grand califat abbasside, l'Irak du grand commerce lointain avec l'Inde et la Chine. C'est-à-dire le temps, en gros, les 9e, 10e siècles de notre ère. Les personnages mythologiques, c'est une fois de plus le calife Harun al-Rashid, qui devient de plus en plus, au fur et à mesure que se composent les nuits dans leur stratification successive, qui devient de plus en plus ce que j'appellerais un peu pompeusement l'instance de légitimation suprême.
Charlemagne et Arthur.
Oui, si tu veux. Enfin, c'est le calife, c'est le souverain suprême, le souverain avec un grand S, qui est là pour codifier, pour sanctionner une morale, pour récompenser les bons, punir les méchants, etc. Alors ça, c'était déjà une première raison de s'attacher à Sinbad, encore que Sinbad, comme tu l'as dit, c'est très connu, et je ne pense pas qu'il faille en raconter l'histoire. La deuxième raison, c'était que on sait que cette œuvre a été composée à part. Au moins pour les 6 premiers voyages, le 7e ayant été cousu et très mal cousu après.
Une sorte de roman dans
C'est un roman, entre guillemets, avant la lettre. Et alors, ce qui m'avait frappé chez Sinbad, c'est que si c'était un roman, il fallait que ce personnage ait, pour être romanesque, un minimum, le minimum nécessaire, il fallait qu'il ait un destin. Et ce destin, c'est le conteur, en ménage très bien la progression. Progression comment ? non pas sur la carte. Ce Sindbad, au cours de ses 6 voyages, ne va jamais, chaque fois, plus loin. Si j'ose m'exprimer ainsi, il va très loin la première fois. Et il ne va jamais plus loin ensuite. Dès le premier voyage, nous sommes aux limites du monde, nous sommes dans le pays fabuleux des îles, etc. La véritable progression de Sindbad, elle est dans le merveilleux. En réalité, le merveilleux coule déjà à plein bord dès le premier voyage. Et nous sommes rassasiés de merveilleux dès ce premier voyage. Mais ce qui est important, c'est que c'est Sindbad qui dit « À chaque voyage, je suis allé plus loin dans le merveilleux. » Autrement dit que là, le conteur joue la carte très très clairement. Ces voyages de Sindbad sont une progression dans le merveilleux, c'est-à-dire dans quoi ? Jusqu'aux extrêmes limites de la destinée possible. Jusqu'aux extrêmes limites, là où l'homme risque de basculer dans d'autres règnes. Le végétal, l'animal, la folie quelquefois, la mort, le non-retour, tout ce qu'on peut imaginer. Et alors, le destin de Sindbad, c'est finalement d'être allé aussi loin que possible et d'avoir su s'arrêter au bon moment. Autrement dit, la véritable vocation du voyage, c'est de finir.
Heureux qui comme Ulysse.
Heureux qui comme Ulysse. Heureux qui, en effet, un jour, peut accumuler la richesse, la sagesse et les moyens d'être, en effet, utile à sa communauté. Ça, c'était la seconde raison. Et la troisième, c'était de savoir si ce Sindbad était véritablement le marin, comme on le dit dans le titre, Sindbad le marin. En réalité, Sindbad est tout sauf marin. Il a une horreur, mais une horreur de la mer. Et lorsqu'il parle de la mer, c'est uniquement sous une peinture absolument cataclysmique, effroyable. C'est l'élément qu'il faut dompter ou auquel il faut échapper. Bref, Sindbad est un terrien. C'est un homme qui navigue parce qu'il faut naviguer. Mais ça n'est pas du tout un homme qui aime la mer. Pas du tout. C'est un marchand. C'est un marchand qui doit naviguer pour ses affaires et qui, je pense, s'il avait pu le faire par terre, aurait certainement choisi la terre. Alors, en conclusion, pour revenir aux questions que Rodinson et Harcoun posaient tout à l'heure, là encore, où ce conte naît-il, dans quel milieu et à quel milieu s'adresse-t-il ? Là, je crois que la réponse est claire. C'est un conte qui naît dans le milieu des grands commerçants, des commerçants du commerce lointain, du grand Irak, Bagdad-Basra, dont parlait Jean Sauvager des 9e et 10e siècles. Et de ce côté-là, le conte peut fonctionner quelquefois comme un guide, car il y a des renseignements très précis dans les voyages de Sindbad le marin. On y apprend comment accoster, comment développer ce que nous appellerions l'échelle de coupé, ou plus exactement la planche qui met, à quel moment faire la lessive pour les marins sur le rivage, mais aussi on y apprend telle ou telle caractéristique de tel animal, de telle plante, de telle contrée. Donc, guide possible à l'usage des marchands, évidemment transfiguré par le merveilleux, mais surtout, je crois, un code. Un code du marchand, et qui n'est pas un code moral, mais qui est un code de l'efficacité. Sindbad n'est peut-être pas, au bout du compte, une personnalité très sympathique. Il est même résolument dégoûtant, presque au physique du terme, dans certaines de ses attitudes. Mais c'est le roi de l'efficacité. Et l'efficacité, c'est évidemment la règle d'or du commerçant.
Rabbi Harcoun.
Ici, nous trouvons une facture plus littéraire et une attention presque exclusive, justement, à cette progression dans le merveilleux. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un indice qui montrerait que les auteurs, si on peut parler d'auteurs, de ces différents contes, ont quand même des lieux d'inspiration différents ? Et si on peut dire que ces lieux d'inspiration sont différents, comment expliquer ces différences d'inspiration ? Est-ce par le milieu social ? Est-ce par un intérêt littéraire différent, une influence littéraire différente ? Il y a là aussi un point que ce conte de Sindbad permet de poser et pour essayer de caractériser cet univers fuyant que représente la diversité des contes. En tout cas, le thème du merveilleux ici est particulièrement important. Et pourquoi ici et pas dans d'autres contes qui, au contraire, sont davantage fondés, comme tu le dis, je ne sais plus si c'est à propos de ce conte ou dans un autre, le conteur est pris à la vie quotidienne, écris-tu. Je ne me rappelle plus exactement dans quel conte tu dis ça.
Alors, ta réponse.
Alors, ma réponse, elle est fuyante. Parce que tu poses un énorme problème. De toute façon, je crois que l'exploitation du merveilleux dans Sinbad s'explique par la volonté de faire quelque chose qui ressemble déjà à un roman, je dis roman entre guillemets, en tout cas, présenter un destin singulier. Et je crois que de ce côté-là, Sinbad est finalement aussi typé, sinon peut-être plus, qu'un autre personnage, je veux dire qu'Ulysse. Contrairement à ce qu'a pu écrire Todorov, et là, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Mais alors, pour revenir au merveilleux...
En Occident, dans un tout autre milieu, l'équivalent, ce serait un des héros de l'aventure chevaleresque.
Sans doute.
Qui vont aussi d'aventures de plus en plus merveilleuses, de plus en plus difficiles, qui les mènent de plus en plus aux limites.
C'est ça. Ouais. Alors, quant à la nature du merveilleux, là, je peux répondre, je crois, plus précisément. Il y a plusieurs merveilleux dans les Mille et Une Nuits, et notamment le merveilleux de la magie, surtout dans les contes égyptiens, et ça, certainement d'origine très profondément populaire. Le merveilleux que nous avons ici, nous le connaissons très bien à la trace. Depuis la relation de la Chine et de l'Inde dans les années 850, jusqu'au livre des merveilles de l'Inde 950, jusqu'à l'abrégé des merveilles, c'est un merveilleux né sur la mer à l'occasion de ce grand commerce lointain, mais qui est déjà passé dans le système culturel, ce que, entre nous, nous appelons la DAB, en gros, la culture générale du temps. Et là, nous sommes incontestablement, je dis, à un niveau supérieur, socialement supérieur, de merveilleux. Nous ne sommes pas dans le merveilleux populaire.
Maxime Rodinson.
Juste deux mots, mais pour un peu sortir dans le son que nous apportent ces récits sur le plan historique, vraiment, parce qu'en somme, là, nous avons affaire à une transposition merveilleuse, fabulatrice d'un réel, et ce réel, c'est le grand commerce de l'océan Indien. Si vous voyez l'opposition, on parlait d'Ulysse, bon, le merveilleux des Grecs, ça se passait sur la Méditerranée, le merveilleux des Arabes, pour l'essentiel, même avec leur façade sur la Méditerranée, c'était l'océan Indien, avec développement merveilleux, mais ça avait toujours fasciné. Déjà, nous avons un texte grec du 2e ou 3e siècle, Pierre de la mer, très très matter of fact, qui dit des choses, et avec un peu de merveilleux quand même, qui nous dit aussi un manuel du marchand, du marchand navigateur de cette époque, c'est un peu la même chose. Et si cette orientation vers l'océan Indien a eu des conséquences historiques énormes, puisque pendant ce temps-là, les chrétiens accaparaient la Méditerranée.
Oui, et alors là, ressemblant ces différences chez les Occidentaux du Moyen-Âge, là aussi, l'océan Indien est une grande source de merveilleux, mais en revanche, pendant longtemps, les chrétiens, ils n'y vont pas. C'est pour cela que je me suis permis de parler d'un univers, d'un horizon onirique. Et il n'y a donc pas ce jeu entre les réalités du commerce et les réalités de l'imagination. André Michel, comme je crois il va falloir qu'on garde quand même quelques minutes pour le yéménite, disons-le, très rapidement, l'opposition du paresseux.
Oui, Abou Mohammed le paresseux, très rapidement, c'est un jeune feignant que sa mère ne réussit pas non seulement à faire travailler, mais même à faire se lever dans la journée. On nous dit qu'il est si paresseux que lorsque il dort devant sa maison et que le soleil le touche, il n'a même pas la force de se mettre à l'ombre. Bien. Alors cet homme, un jour, sa mère le porte, je dis bien le porte, jusqu'au port, avec une pièce d'or, qu'il remet à des commerçants qui partent pour la Chine, c'est le contexte de Sinbad, à charge pour eux de lui acheter quelques denrées qu'il pourra revendre avec bénéfice au retour. Et alors, je passe, mais cet homme, qui est en soi peu digne d'intérêt, trouve une série de concours, les marchands se comportent très bien avec lui, ils lui achètent un tas de choses, bref, je passe, et à la fin, il devient très riche. Alors, là, le problème qui nous avons deux problèmes, je crois, à poser. D'abord, comment devenir riche ? Réponse, aussi bien par la chance que par le travail. Et de ce côté-là, Abou Mohammed le paresseux, c'est l'anti-Sinbad. En un sens, ça pourrait être, comme dans notre société, le marginal. Celui qui dit qu'après tout, la rentabilité, se fatiguer, tout cela, à la limite, est presque coupable. Puisqu'on peut très bien vivre sans rien faire, et on peut même devenir riche sans rien faire. Alors c'est là que peut-être le conte a d'autres prolongements. Car il débute autour d'une obscure histoire de bijoux. L'épouse du calife, Harun al-Rachid, la fameuse reine Zobeïda, mais c'est un peu la castafiore, ciel mes bijoux. Elle arrive devant le calife et lui dit « Je veux une superbe pierre précieuse pour couronner un roi. » Et vraiment, le calife Haroun al-Rachid met tout l'État au service de la pierre précieuse de Zobeïda. Alors on peut se demander si, à la limite, là encore, si nous essayons de voir comment le conte était accueilli par un public, et peut-être un public populaire, mais il n'était peut-être pas très bien accueilli en ce qui concerne le calife, parce que n'importe quel esprit un peu futé ne pouvait pas se dire, après tout, Abu Muhammad a bien eu de la chance, mais le calife aussi. Le calife, finalement, ne s'est donné la peine que de naître, pour reprendre une formule célèbre. Alors il y a peut-être, je suis très prudent, je ne dis pas que c'est un conte d'opposants, mais tout de même, c'est un conte qui peut permettre de mettre dans la tête des gens certaines mauvaises pensées quant à une certaine légitimité du pouvoir.
Est-ce que tu ne penses pas qu'il peut y avoir aussi une autre lecture qui laisse tout à fait intacte les tiennes? Est-ce non pas là presque une sorte d'apologue aussi sur la naissance du capitalisme? Où à côté des gens comme Sinbad qui vont effectivement faire fructifier les choses, il n'y a pas tout simplement ceux qui se contentent de donner de l'argent et c'est les autres qui travaillent.
Possible. J'avoue que cette analyse m'a échappé. C'est
parce
possible.
Parce que quand vous
possible.
Parlez du travail, le travail c'est le commerce.
Oui.
Le commerce, ça par intermédiaire.
Oui.
Mmh. Si vous venez de l'évoquer, deux lectures possibles de ce conte, il y en a une autre qui correspondrait, à mon avis, davantage à la psychologie fondamentale de ces sociétés musulmanes où sont nés ces contes. Cette insistance sur le hasard qui peut délivrer de la misère, qui peut délivrer du non-avoir, etc., cette insistance est faite pour nourrir une espérance qui doit compenser le hirman fondamental de ces sociétés. Le hirman, j'entends la privation de tout moyen de vivre. Et une privation qui n'est pas seulement due à des raisons sociales ou à des raisons de partage des ressources, qui est due tout simplement à la pauvreté, aussi au cataclysme, etc.
Une sorte d'idéologie de compensation.
Oui. C'est l'histoire des deux Abdallah.
Mais là aussi, c'est présent.
Bien sûr. Ah, bien sûr.
C'est-à-dire que
c'est
même
souvent
si...
présent.
Oui,
nous sommes d'accord, bien sûr.
Évidemment, c'est poussé très loin avec plus... la peinture de cette paresse extraordinaire, mais ça, c'est la part du conte. C'est la littérarisation d'une situation psychologique fondamentale.
Je crois que ce que tu dis, et qui est très juste, hein, je m'empresse de l'ajouter, c'est alors vraiment mais parfaitement perceptible, et que le conte des deux Abdallah est fait pour ça,
absolument,
pour ce que tu dis, pour expliquer cela.
Tout à fait.
C'est la hantise de la loterie, on pourrait faire une règle, plus une société est pauvre et sous-développée, plus on rêve à la loterie.
Exactement.
Et bien d'abord, je crois, conclure avec un personnage et un conte fort intéressant, le Nite. Le Yéménite. Alors qu'est-ce qui lui arrive à ce Yéménite?
C'est un riche marchand, là aussi. Pourquoi Yéménite? J'avoue que je ne sais pas pourquoi le comte a décidé qu'il était Yéménite, mais peu importe. Ce riche marchand a 6 esclaves, femmes, qui lui demandent de dire quelle est celle qu'il préfère. Et alors, pas fou, naturellement, notre homme, au lieu de...
leur envoie la balle.
C'est ça. Au lieu de trancher lui-même, leur impose devant lui de faire la preuve de leur qualité. Et de faire chacune d'elles fait son propre éloge. Alors, il y a la grasse, la maigre. Ça, c'est la répartition par, disons, corporelle. Et puis, la répartition par couleur. La blanche, la noire, la jaune et la brune. Et à l'issue de cette joute oratoire, naturellement, notre homme, très sagement, dit qu'il n'en préfère aucune et qu'elles sont toutes merveilleuses. Bon. Alors, ça paraît un conte fait de rien du tout, mais il y a à l'arrière-plan, une fois de plus, le calife qui donne sa consécration. Et oui, un conte de rien du tout, pas tout à fait. Parce qu'en fait, derrière, il y a des enjeux de civilisation. Derrière la grasse et la maigre, je crois qu'il y a deux enjeux qui sont des canons de la beauté féminine, et derrière ces canons de la beauté féminine, il y a un trésor, bon, le trésor classique d'une certaine poésie, la poésie arabe, et un trésor, le trésor de la poésie moderniste, celle qui s'exprime en arabe, mais qui naît dans les villes d'Irak, au carrefour d'autres influences culturelles. Donc là, derrière, ne croyons pas simplement qu'il s'agit de parler de femmes grasses et de femmes maigres. Il y a, encore une fois, des codes culturels très très puissants. Quant à l'autre répartition par couleur, elle est en fait dichotomique. Il s'agit de la blanche et la noire. Et derrière la blanche et la noire, il y a la moins blanche ou la moins noire, c'est-à-dire la jaune et la brune. Et là derrière aussi, il y a tout un débat de civilisation qui est posé à cette époque et qui tourne autour du thème des mérites des peuples de l'univers, et notamment autour des Noirs. Mes deux amis évoquaient tout à l'heure le grand écrivain Jahid du 9e siècle. Jahid a écrit aussi une épître célèbre sur les mérites des Noirs. Il y a tout un débat.
Et c'est peut-être là l'occasion de citer un autre livre de Bernard Louis qui vient également d'être traduit en français, « Race et couleurs en pays d'islam », traduit par André Itéanu et Françoise Briand chez Payot. Alors messieurs, sur ces histoires de femmes et de couleurs, Mohamed Harkoun.
Bien, c'est difficile d'ajouter quelque chose à ce que vient de dire Mickaël là-dessus, mais on peut simplement se demander pourquoi, là aussi, on fait apparaître uniquement des esclaves et non pas des femmes libres, car ce monsieur devait aussi avoir au moins une femme dite libre. Je dis bien dite libre parce que nous savons très bien justement que l'on a développé l'idée que c'était en réalité socialement les esclaves qui bien étaient sûr. Plus libres que les femmes, etc. Alors, est-ce qu'il y a une explication à ça?
Moi, j'en verrai une toute simple.
À cette présence uniquement d'avoir à choisir uniquement parmi les esclaves.
J'en verrai une toute simple. Tu sais comme moi que les règles de pudeur sont extraordinairement fortes. Or, pour parler librement d'une femme, je pense qu'on prend une femme esclave, parce que l'on peut tout dire, en effet. Parler librement d'une femme libre, je crois que c'est beaucoup plus difficile.
Oui, ça serait indécent. On peut parler des femmes légitimes comme ça.
Maxime Rodinson.
Pas grand-chose. Il y a une hiérarchisation. Effectivement, il y a une notion, dans le monde de l'islam médiéval, il y a une notion des races, disons, entre guillemets, et il y a une certaine hiérarchisation. Il faut se tenir en garde, d'une part, contre un dénigrement systématique, et d'autre part, contre une apologétique qui verrait tout cela sous des couleurs idylliques, fraternité universelle. C'était ni l'un ni l'autre.
Oui, c'est le thème de Bernard Louis. Il a dit, on a crédité l'islam d'une absence de racisme, c'était pas tout à fait vrai, et il montre comment il se forme quand même une image assez péjorative du noir, mais il dit aussi, il faut pas exagérer dans l'autre sens, et on en retire quand même l'impression que le racisme n'a pas été, si je puis dire, un des grands défauts du monde musulman. Il en a connu ses aspects, comme hélas à peu près toutes les sociétés et toutes les cultures, mais ça n'y a jamais pris de forme hypertrophiée, ça n'a pas joué quand même, ça n'a pas été un des thèmes profonds de la culture et du comportement de l'islam.
Il faudrait démystifier le terme racisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste, bon, c'est pas clair, évidemment. Mais toutes les civilisations ont connu la conscience des différences entre peuples et leur caractère physique, et toutes ont plus ou moins joué là-dessus avec des degrés infinis.
Il y a eu des évolutions. Oui. Je songe, n'est-ce pas, à Michel Pastoureau, le grand spécialiste de l'héraldique occidentale médiévale, qui a pu montrer que la couleur noire, pendant longtemps, dans le blason, est une couleur très positive. Là encore, n'est-ce pas, il y a des changements. Inversement, nous voyons apparaître un roi mage noir au cours du 15e siècle.
Et bien, dans l'islam aussi.
Messieurs, merci d'avoir évoqué la richesse des mille et une nuits, la richesse de ce monde musulman. Et nous allons cette fois-ci terminer sur une page de merveilleux. C'est une des aventures de Sinbad. Et bien sûr, on a parlé d'Ulysse, et ici on ne peut s'empêcher de le faire encore, car Sinbad va rencontrer un cyclope, va rencontrer Polyphème.
Le soleil se couchait. Et tandis que nous étions dans l'état pitoyable que je viens de vous dire, la porte de l'appartement s'ouvrit avec beaucoup de bruit. Et aussitôt, nous en vîmes sortir une horrible figure d'homme noir de la hauteur d'un grand palmier. Il avait au milieu du front un seul œil, rouge et ardent comme un charbon allumé. Les dents de devant, qu'il avait fort longues et fort aiguës, lui sortaient de la bouche, qui n'était pas moins fendue que celle d'un cheval, et la lèvre inférieure lui descendait sur la poitrine. Ses oreilles ressemblaient à celles d'un éléphant et lui couvraient les épaules. Il avait les ongles crochus et longs comme des griffes des plus grands oiseaux. À la vue d'un géant si effroyable, nous perdîmes tous connaissance et demeurâmes comme morts. À la fin, nous revînmes à nous et nous le vîmes assis sous le vestibule, qui nous examinait de tout son œil. Quand il nous eut bien considérés, il s'avança vers nous, et s'étant approché, il étendit la main sur moi, me prit par la nuque du col et me tourna de tous côtés, comme un boucher qui manie la tête du mouton. Après m'avoir bien regardé, voyant que j'étais si maigre que je n'avais que la peau et les os, il me lâcha. Il prit les autres tour à tour, les examina de la même manière. Et comme le capitaine était le plus gras de tout l'équipage, il le tint d'une main, ainsi que j'aurais tenu un moineau, et lui passa une broche au travers du corps. Ayant ensuite allumé un grand feu, il le fit rôtir et le mangea à son souper dans l'appartement où il s'était retiré. Ce repas achevé, il revint sous le vestibule où il se coucha et s'endormit en ronflant d'une manière plus bruyante que le tonnerre. Son sommeil dura jusqu'au lendemain matin. Pour nous, il ne fut pas possible de goûter la douceur du repos, et nous passâmes la nuit dans la plus cruelle inquiétude dont on puisse être agité. Le jour étant venu, le géant se réveilla, se leva, sortit et nous laissa dans le palais.
Les lundis de l'histoire était une émission de Jacques Le Goff. Les textes étaient lus par Frédéric Cantrel. Prise de son, Édouard Campras. Réalisation, Pierrette Perronneau.